Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Nous allons lire ensemble dans l'évangile de Marc. Marc au chapitre 11, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu !» Voilà une déclaration courte, mais combien forte. « Ayez foi en Dieu !» La foi, nous le savons, la foi repose sur la parole de Dieu. Tout ce qui ne repose pas sur la parole de Dieu n'est pas la foi. Tout ce qui n'a pas comme ancrage dans la parole de Dieu, dans le Saint-Livre, inspiré par le Saint-Esprit, n'est pas la foi. C'est de la superstition. On s'appuie sur des traditions, on s'appuie sur des façons de faire, on a mis Dieu là-dedans, bien sûr, on a ajouté, n'est-ce pas, des formes religieuses, mais nous savons que dans le christianisme, il y a beaucoup, beaucoup de superstitions. Mais quant à nous, nous voulons balayer toutes les superstitions et nous voulons nous attacher qu'à une seule chose, à la foi véritable, authentique et vraie. Et au commencement de cette nouvelle année, il est bien de faire le point. Où repose notre foi? Quel est le fondement de notre foi? Oui, je puis dire, le fondement de ma foi, c'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Cette parole qui a bravé les âges et les attaques de l'ennemi, qui a voulu l'annuler, à la rejeter. L'ennemi qui a cherché à y amener le doute, en ajoutant toutes sortes d'autres choses de considérations humaines, de philosophie humaine et de tradition. Non, nous balayons toutes ces choses-là, tous ces rudiments du monde et des hommes, et nous voulons nous attacher à la parole de Dieu, car nous avons vu en nous-mêmes la vérité de cette parole. Frères, sœurs, connaissez cette parole et soyez déterminés en cette année nouvelle qui commence de la lire et de la lire encore et de vous en imprégner, de la lire avec prière. C'est plus qu'un abord intellectuel que nous devons faire vis-à-vis de cette parole. C'est plus qu'une affaire de l'intellect. L'intellect y est, oui, mais contrôlé par le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous la lisons, nous devons prier aussi pour demander à Dieu qui nous donne la lumière. Une lumière spirituelle pour comprendre ce que l'intelligence humaine et l'intellect ne peut saisir. Mais cette parole, elle m'est là, lisez-la. Ne vous permettez jamais, jamais, jamais de vouloir annoncer la parole, prêcher la parole, prétendre, aider votre prochain lorsque vous connaissez pas cette parole, car vous allez raconter des bêtises, des sottises. Soyez humble, suffisamment humble pour dire « je ne comprends pas, je ne saisis pas ». C'est tout. Combien d'hommes et de femmes qui prennent la parole devant des auditoires, qui prennent la parole devant des amis, comme s'ils savaient, mais ils n'ont même pas lu toute la Bible d'un bout à l'autre une seule fois, rien qu'une seule fois. Et ça suffit pas. La Bible s'explique par la Bible. Appliquez-vous dans cette année qui vient à lire la Bible tous les jours. Nous ne sommes pas ici un auditoire d'illettrés. Et je doute fort qu'il y ait un seul illettré ici dans ce lieu. Je doute fort. Et si par hasard il y en a un ou deux, c'est un grand minimum. On a soif de connaître Osaïe, on a soif de faire des études, on sacrifie pour les études, on sacrifie énormément, énormément. Les parents sacrifient, on envoie les enfants jusqu'à l'extrémité du monde et on se casse la tête pour payer son minerval, on veut apprendre, 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 apprendre. C'est bien, apprenez la parole, vous savez lire, lisez-la. Ne prétendez pas savoir quand vous ne savez pas. Quand je vois les études qui sont demandées à un médecin, à un docteur en médecine, ce qu'il doit assimiler, ce qu'il doit lire comme ouvrage, ce qu'il doit étudier. J'ai mon beau-fils qui est devenu médecin et qui a fait ses spécialisations. Mais les ouvrages qu'il doit assimiler, mais c'est pas possible. Des fois, je me demande comment il arrive à lire tout ça. Mais soyez excellents aussi dans la connaissance des Écritures. Excellez, vous médecins chrétiens qui connaissez le Seigneur. Appliquez votre science à l'étude de la parole de Dieu et vous serez plus forts pour aider les malheureux. Vous serez plus forts. Et vous qui vous pensez être sans ministère et sans pas grand-chose, sachez que vous avez une grande valeur devant Dieu. Et si vous connaissez cette parole, vous pourrez mieux la dispenser. Vous pourrez mieux, avec plus de force et plus d'autorité, affirmer ce que vous croyez, affirmer et défendre la vérité. Nous avons besoin, l'Église de Dieu a besoin, Dieu a besoin de combattants. Avec quoi? Avec l'épée de la parole. Si vous avez une épée dans la main, vous ne savez pas l'utiliser. À quoi cela sert-il? Ce n'est qu'un instrument inutile qui va rouiller dans un coin. Ou rouiller dans votre main. Et parce que vous ne savez pas, vous risquez de combattre votre frère. Et ça, c'est malheureux. Ayez foi en Dieu. Jésus commence, voilà comment il commence ce qu'il va dire à ses disciples. Et ce qu'il va dire à ses disciples est capital. Ayez foi en Dieu. Et il continue en disant, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé par deux fois, et Dieu ne ment pas. Et cela vous sera accordé. C'est pas moi qui dis cela. Ce n'est pas un homme qui dit cela. Ce n'est pas un théologien qui dit cela. Ce n'est pas un docteur en théologie qui dit cela. Non! Car tous ces hommes-là, quoi qu'ils soient, quoi que soit leur titre et leur position, et leur capacité académique et intelligence et tout, ce ne sont que des hommes! Et qui sont incapables, incapables de faire un seul miracle. Mais c'est le Dieu vivant, le Créateur de l'univers qui le dit par deux fois. Et cela vous sera accordé, je vous le donnerai. Mais la première condition, ayez foi en Dieu. Ah. Ayez foi en Dieu. C'est là que tout commence, c'est là que tout démarre, c'est à ce point-là que tout part. Que tout avance. La vie chrétienne, sans cela, n'est pas la vie chrétienne. Par deux fois, il dit, cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, vous voyez, c'est tout un texte, ça. C'est un ensemble d'enseignements que Jésus donne. C'est-à-dire, ça fait un tout. Hein? C'est-à-dire, la première partie, nous venons de la lire. Deux fois, il a dit, cela vous sera accordé. La deuxième partie s'adapte à la première partie, parce que c'est relié par une conjonction. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos fautes. Autrement dit, vous sera accordé à condition que... Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. apprenez à lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Si vous l'apprenez, vous deviendrez sage. Il n'y a pas de plus grande sagesse que celle-ci. Peut-être vous n'avez pas de diplôme académique. Peut-être vous n'avez pas de titre académique. Peut-être vous n'avez pas pu faire des hautes études. Peut-être que vous vous considérez vous-même à vos propres yeux comme étant un rien du tout, entre guillemets. Mais, si vous connaissez cette parole, quelle intelligence et quelle sagesse, vous allez dépasser le docteur tel et tel, le docteur tel et tel, docteur en philosophie, docteur en je ne sais pas quoi. Vous allez le dépasser, car vous aurez une sagesse qui n'est pas seulement pour le temps, mais qui est pour l'éternité. Une sagesse par laquelle vous allez enrichir les autres. Oui, n'ayez pas de complexe vis-à-vis de ce monsieur ou de cette dame avec tant de connaissances et tant de degrés. N'ayez pas de complexe, vous en savez plus qu'eux. Ce que vous connaissez dépasse l'intelligence humaine, dépasse le raisonnement de la logique humaine, dépasse le temps. Ce que vous connaissez est au-delà du temps. Alléluia. Oui, nous allons commencer une nouvelle année. Enfin, nous avons commencé dimanche dernier. C'était le dernier dimanche de l'ancienne année. Elle était usée, celle-là. Maintenant, c'est une année toute neuve, toute nouvelle. Quels sont nos souhaits pour cette année? À quoi pensons-nous? Nous avons toutes sortes de projets, toutes sortes d'idées, toutes sortes de désirs. Mais attention, n'ayons pas cette attitude fataliste, comme beaucoup trop d'hommes et de femmes. Ils ont une attitude fataliste quant au futur. Quant au futur, nous connaissons le passé. Nous savons ce qui s'est passé l'année passée, les années passées. Les heures passées, mais l'avenir, pour nous, c'est un point d'interrogation. Et beaucoup d'entre nous, nous avons une attitude fataliste vis-à-vis de l'avenir. Adviendra ce qui adviendra. Nous n'avons pas de contrôle sur l'avenir. Pardon. Notre avenir, jusqu'à un certain point, nous pouvons le contrôler. Nous pouvons agir sur cet avenir. Nous savons que si nous marchons avec Dieu, que si nous obéissons à sa parole, que si nous sommes soumis à ses enseignements, et si nous nous soumettons à sa volonté, cet avenir sera positif. Il sera avec nous. Il nous portera à travers les difficultés et les problèmes. Car problème, il y aura. Car difficulté, il y aura. Peine et souffrance, il y aura. Maladie, certainement. Mais, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous dans les temps difficiles et dans les combats. Il sera avec nous et il nous accordera la victoire et la force. N'ayons pas une attitude de fatalisme vis-à-vis du futur. Adviendra ce qui adviendra, je n'y peux rien. Tu peux quelque chose. Tu peux quelque chose avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ce que disait David. Avec Dieu, je me précipiterai sur une armée puissante. Avec Dieu, je franchirai les murailles. Avec Dieu, je ferai l'impossible. Comment considérons-nous ce futur qui est devant nous? Avec quel genre de regard voyons-nous ce futur et ces années qui vont ces jours et ces mois qui vont se dérouler, ces années aussi, peut-être? Ou alors, reviendra-t-il pendant cette année? Nous l'attendons à tout moment. Nous pouvons influencer ce futur si nous marchons avec Dieu d'une façon positive ou d'une façon négative. Ayez foi en Dieu. Voilà le départ de toute chose. Voilà le départ de toute vraie vie chrétienne. Voilà le départ de toute victoire. Voilà le départ d'une année différente des autres. Ayez foi en Dieu. Oh, il y a des gens qui disent, mais moi je crois en Dieu. Oui, mais la Bible dit, les démons croient et ils tremblent aussi. Alors, croire en Dieu ne suffit pas. Beaucoup d'hommes et de femmes disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne font pas ce que Dieu commande. Pourquoi? Parce que croire, c'est faire aussi. Celui qui croit, il fait et il accomplit les œuvres de la foi. Tu peux dire que tu crois en Dieu, mais si tu n'accomplis pas les œuvres de la foi, où vas-tu? Je crois en Dieu, et je suis menteur. Je crois en Dieu, et je suis voleur. Je crois en Dieu, et je prends la femme de mon prochain. Je crois en Dieu, et je suis plein de duplicité. Je crois en Dieu, mais quel est ce genre de foi-là? C'est une foi morte. La vraie foi influence les œuvres. La vraie foi fait changer le comportement à la façon de faire. Croire en Dieu, c'est craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est se soumettre à sa volonté. Voilà ce que cela représente. Donc cet avenir qui est devant nous, nous pouvons le changer, nous pouvons l'influencer. Nous avons une autorité sur cet avenir. Nous venons de lire un passage de l'Écriture ici, un passage que presque tout le monde connaît, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas lu toute la Bible, vous connaissez en tout cas ce passage-là. Nous avons déjà lu ce passage qui nous parle de bouger les montagnes combien de fois? Parce que ça fait rêver, c'est pas vrai? Bouger les montagnes, renverser les montagnes. Et cela nous fait rêver pour la bonne raison que nous avons tellement de montagnes dans notre vie. N'est-il pas vrai? Qui a des montagnes à franchir ici? Levez la main. Aïe, 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 regardez toutes ces montagnes. J'espère qu'à la fin de l'année, il y aura beaucoup moins de mains qui seront levées. Donc cette parole s'adresse à vous, mes frères, mes sœurs. Une montagne, c'est quelque chose, déjà... Une colline. Arrêtons à une colline. Hein? Arrêtons-nous à une colline. Bon, les bulldozers, s'ils travaillent dur pendant, je sais pas, 5 mois, 6 mois, 7 mois, ils arrivent à niveler une colline. C'est pas vrai? Ça, c'est le travail de l'homme. Mais une montagne. Regardez le mont Everest. 10 000 mètres d'altitude. La montagne la plus haute du monde. Bon. Il y en a des plus petites de montagnes, on les appelle aussi des montagnes. Le Mont Blanc, c'est déjà plus petit. Oui, mais le Mont Blanc, bon. Mais si vous allez au Zaïre, il y a le Rwenzori, hein. Mais le Rwenzori, il est tellement haut qu'il y a de la neige là en haut. On peut en trouver des plus petites de montagnes qui s'appellent toujours montagnes. Peu importe. Des millions de tonnes de roches. C'est pas vrai? Qui peut bouger une montagne? Toi, tu peux. Alléluia. Toi, tu peux. Nous avons tellement de montagnes, c'est-à-dire d'obstacles, de choses dans notre vie de famille, dans notre vie personnelle, dans notre société, de choses, oui, que nous disons être une montagne inébranlable. Des tonnes et des millions de tonnes de roches et de terre. Jésus parle de montagne, il ne parle pas de colline. Nous avons tellement de montagnes infranchissables devant nous. Nous croyons à la parole, n'est-ce pas? Oui, nous y croyons. Nous croyons que c'est la parole de Dieu et que Dieu n'a pas parlé pour rien. Le Seigneur nous parle par sa parole. Nous croyons à la parole de Dieu et tout ce qu'il dit est pour nous. Tout ce qu'il dit est vrai. Jésus n'a jamais parlé pour rien. Jésus n'a jamais exagéré non plus. Parce que l'exagération, c'est même père, même mère avec le mensonge. C'est une vérité que vous amplifiez. C'est une histoire que vous amplifiez. Donc, dans l'exagération, il y a le mensonge. Attention, Jésus n'a jamais exagéré. Mais alors pourquoi, si nous croyons dans la parole de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la véracité de ce qu'il nous dit, pourquoi tant de montagnes ne bougent-elles pas, malgré nos prières, malgré nos jeûnes, malgré tout, malgré que nous confessons la parole de Dieu? Bien des fois, nous prions, nous disons au Seigneur, « Seigneur, ta parole dit que, Seigneur, tu as dit que, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et rien ne se passe. » C'est pas vrai? Et je vous assure qu'il y a des gens qui sont en train d'user le nom de Jésus. Ils sont en train de l'user. Et rien ne se passe. Le nom de Jésus, c'est pas un nom magique que l'on prononce et paf, le miracle. Non! Souvenez-vous que les promesses de la parole de Dieu sont toujours conditionnelles. Si nous ne remplissons pas la condition, nous aurons beau prier et crier dans les micros ou ailleurs ou dans nos prières au nom de Jésus, il n'y aura rien qui va se passer. Remplissez les conditions. Nous confessons la parole, nous croyons et rien ne se passe. Nous disons, Seigneur, tu as dit que, je crois à ta parole, Seigneur, tu as dit que, et rien ne se passe, la montagne est toujours là. Nous nous forçons de croire quand même. Seigneur, je crois, ça fait rien, rien ne se passe, mais je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Tu pourras le répéter 1000 fois, mais la montagne est toujours là. Et alors, pour finir, un certain fatalisme nous envahit. Oh ben, Dieu connaît. Ça, c'est un slogan qui est souvent dans la bouche des chrétiens. Dieu connaît. Dieu sait. Et puis, voilà, on tourne le dos, on continue sa route. Je crois, Seigneur, oui, c'est vrai, bouger les montagnes, tu l'as dit, je le crois, Seigneur. Tu connais, tu sais pourquoi la montagne est toujours là, peut-être que tu la veux. Et un certain fatalisme nous prend et nous disons que peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Et on essaye d'expliquer. C'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'on est chrétien. On dit, je crois à Dieu, je crois à Dieu, je crois à Dieu. Donc, j'essaye d'expliquer le pourquoi. Je ne peux pas toujours expliquer. Mais, le Seigneur, lorsqu'il a parlé de cela, d'abord, remarquez, il n'a pas parlé de temps. Il n'a pas parlé de temps. Le temps lui appartient. Le moment lui appartient. L'opportunité lui appartient. Mais nous n'avons jamais de temps, tandis que Dieu a tout le temps. Ça, c'est une première chose. Le temps lui appartient. Et puis, une autre vérité, c'est que la mesure de foi, il nous la donne. Continuons. Jésus dit là, « Ayez foi en Dieu. » Si quelqu'un dit à cette montagne, il dit, il ne crie pas. Il y a des gens qui pensent qu'à force de crier, « Sors, 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 sors !» Montagne, montagne, montagne. Déplace. À force de cris, ils arriveront. Mais non, mais non, mais non. C'est pas mes efforts qui vont bouger les montagnes. C'est pas mes efforts qui vont chasser les démons. C'est pas mes cris qui vont faire que la personne va être délivrée du joug de Satan. Nous donnons l'impression que plus nous crions, plus nous aurons de résultats. Faux! Absolument faux. Absolument faux. Mes efforts sont rien. Je peux crier, sauter, faire tout ce que vous voulez, jeûner, faire ce que vous voulez, faire des efforts, et même souffrir, tant que vous voulez, mais c'est pas ça qui va faire. Ce n'est pas moi, c'est lui! Ayez foi en Dieu. Voilà la première chose. Voilà le départ. Voilà la source. Ayez foi en Dieu. Et si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, voilà une condition. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, pas arrivera, mais arrive, cela lui sera accordé. Mais pourtant, il y a plein de questions qui se posent dans la tête, c'est pas vrai? Oh là là, plein de questions. Vous pouvez penser, quelle foi immense pour faire bouger les montagnes. Quelle foi immense! Écoutez, je peux vous assurer, sans aucun doute quelconque, si c'est la volonté de Dieu que la montagne qui se trouve à Binza, qui n'est pas tellement haute, mais qui est difficile à déplacer avec les bulldozers, c'est pas vrai? Mais si la montagne de Binza, si c'est la volonté de Dieu, pour un plan particulier, pour une raison particulière, et que cette montagne se déplace, se jette à l'embouchure du fleuve pour détourner le fleuve, vous croyez que Dieu ne peut pas le faire? Il peut le faire. C'est simplement que Dieu ne fait pas des miracles inutiles. Dieu fait toujours un miracle pour un but. Et le premier but, c'est sa gloire. Le premier but, c'est sa gloire. Le deuxième but, c'est pour notre bien. Alléluia. Alors, Dieu ne fera rien pour rien du tout. Le miracle qu'il fera, le déplacement de la montagne qu'il fera, dans nos familles, dans notre cœur, dans nos problèmes, c'est d'abord pour sa gloire, un, et ensuite pour notre bien, deux. Mais il a dit, la montagne bougera. Mais voilà, nous pensons, déplacer une montagne, c'est quelque chose de particulier. Il faut une foi immense pour bouger une montagne. Je n'ai qu'une toute petite foi. Une toute petite foi. Cela n'est que pour des gens spéciaux. C'est pour des champions. Des champions spirituels. C'est pour une catégorie d'hommes particuliers. Bouger les montagnes. Nous sommes que des simples chrétiens. Des simples chrétiens. Nous n'avons même pas de ministère. Nous n'avons pas nous sommes là seulement sauvés et puis voilà, c'est tout. Écoutez, je ne suis pas plus que vous. Vous n'êtes pas plus que moi. Je suis un sauveur, je suis un pécheur sauvé par grâce. Et vous êtes aussi un pécheur sauvé par grâce. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Nous sommes au même niveau, vous comme moi comme vous. Première vérité. Vous pensez, quelle foi immense pour bouger une montagne? Ma foi est trop petite. Cela n'est que pour des champions, une catégorie d'hommes, des évangélistes internationaux qui ont un ministère spécial et qui vont faire des miracles particuliers et qui ont reçu un don spécial. Moi, je n'ai pas reçu de don. Blagueur. Tu as beaucoup reçu. Seulement, tu ne fais rien avec ce que tu as reçu. C'est tout. Pourquoi? Parce que ta foi, où est-elle? Cela n'est que pour des champions, une catégorie d'hommes. Non, cela est pour tous. C'est ce que beaucoup pensent. Ils pensent qu'il n'y a que seulement des gens particuliers qui ont un ministère. Alors aujourd'hui, ça devient courant, n'est-ce pas? Ministère tel et tel, et on attache le ministère à une personne. C'est pas vrai. Tu n'as rien du tout. Même si tu as un ministère tel et tel, tu n'as rien! C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui utilise. C'est pas toi. Enlève ton nom de ministère, s'il te plaît. Enlève ton nom. Mets le nom de Jésus. Car sans lui, tu ne pourrais rien faire. Oui, les disciples, c'est ce qu'ils pensaient eux-mêmes. C'est ce qu'ils pensaient eux-mêmes, car ils ont dit à Jésus, dans Luc 17, 5, « Augmente-nous la foi !» Pour eux, ils semblaient bouger une montagne, c'est impossible. Seigneur Jésus, si tu parles comme ça, bon, on veut bien, d'accord. Mais Seigneur, il est nécessaire de nous augmenter la foi. Alors Jésus de leur répondre. Écoutez ce qu'il leur a répondu. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde ou un grain de sénévé, suivant les traductions, vous diriez à ce mûrier ou à ce sycomore, suivant les traductions, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Ah, quelle mesure de foi faut-il pour voir une montagne être renversée, pour voir l'arbre se déraciner? Quelle mesure de foi faut-il? Jésus donne la mesure, Jésus donne la quantité. Vous dites, moi j'ai seulement une toute petite foi, ça va. Je vais te dire, c'est suffisant. Hein? C'est suffisant! Une mesure égale à la plus petite graine. Vous savez que la graine de moutarde, c'est une des plus petites graines dans le monde végétal. Petite, je ne suis pas sûr. Moi, je n'en ai jamais vu, mais enfin, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai lu. Il paraît que c'est à peine sur la voie des yeux. Minuscule! N'est-il pas dit dans la parole de Dieu que Dieu a départi à chacun une mesure de foi? Dieu a donné à chacun une mesure de foi. C'est Dieu qui a donné, ça ne vient pas de toi. Cette mesure de foi est la quantité d'une graine de moutarde. Alléluia. Espoir. Arrête de douter. Dieu t'a donné une mesure de foi comme une graine de moutarde. C'est-à-dire, petit, tu dis que c'est petit. C'est vrai, c'est petit. Mais qu'est-ce que Jésus a dit?
Si vous avez une mesure de foi comme un grain de moutarde, vous direz à cet arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et ceci se ferait. Nous avons au moins cette mesure-là. Donc, nous pouvons bouger les montagnes. Oh, vous avez des montagnes. Il y a des mamans ici qui voudraient tant voir leur mari venir au Seigneur. C'est pas vrai? Quelles sont les mamans ici qui voudraient voir leur mari venir au Seigneur? Levez la main. Amen. Amen. Merci. Quels sont les papas ici qui voudraient voir leur femme venir au Seigneur? Levez la main. Les papas. Oh, toutes les mamans sont converties. Ah, il y en a un là-bas. Seigneur Jésus. Il y en avait plus au premier culte. C'est une montagne, cela. Quels sont les parents qui voudraient voir leurs enfants venir au Seigneur? Papa, maman, qui voudraient voir vos enfants que vous avez mis au jour venir au Seigneur? Levez la main. Oh, Jésus, ce sont des montagnes, c'est pas vrai? Vous pleurez quand vous voyez vos enfants suivre la voie du monde, de la débauche, de la boisson et de la drogue. Vous pleurez, c'est une montagne. Jésus dit, il suffit de la quantité d'une graine de moutarde de foi. Il parle, Jésus, de la quantité, mais il ne parle pas du temps, vous remarquez? Peut-être ça va prendre 3 ans, peut-être ça va prendre 5 ans, peut-être ça va prendre 10 ans, peut-être jusqu'à votre lit de mort. Au dernier moment, vous verrez celui que vous avez aimé, celle que vous avez aimée, venir au Seigneur. Dieu, Jésus n'a pas donné un facteur temps, il a donné un facteur quantité. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, nous pouvons bouger les montagnes. Il n'y a pas que la montagne de la famille. Il y a des montagnes de santé. Il y a des montagnes de besoins personnels. Il y a des montagnes d'affaires, de business, de vos affaires, de votre commerce, de votre emploi, de votre travail, de votre... Des montagnes. La quantité de foi, une graine de moutarde. Voilà. Mais pourquoi? Pourquoi ces montagnes ne bougent-elles pas? Pourquoi ces montagnes ne bougent-elles pas? On vous en donnera toutes sortes de raisons. On vous donnera toutes sortes d'explications. Il faut d'abord que tu fasses des jeûnes et des prières. Il faut d'abord que tu te punisses toi-même, quoi. Autrement dit, fais des œuvres, donne de l'argent, fais ceci. Non! Tu n'auras pas parce que tu fais. Tout est donné par grâce. Une grâce ne se mérite pas. Tu veux jeûner? Tu veux prier? Fais-le pour t'approcher de Dieu, pour t'humilier devant Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu jeûnes et que parce que tu pries que ton business, ton affaire, ton commerce ira mieux. Non. Si ça va mieux, c'est par grâce. Et une grâce ne se mérite pas. Approche-toi de Dieu. Dieu veut que tu t'approches de lui, que tu cherches sa face plutôt que de chercher l'argent comme tu le fais. Tu ne donnes pas de temps à Dieu, mais approche-toi de lui. En t'approchant de lui, il te bénira. Il te bénira. Et tes affaires prospéreront. Non pas à cause de ce que tu as prié pour tes affaires, mais parce que tu t'es approché de Dieu. Ça, il y a une nuance. Il y a une nuance. Mais... essayons de voir et de comprendre ce qui se passe. La montagne ne bouge pas. Dieu est fidèle. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La faute n'est pas du côté de Dieu. Jamais. Quelle est la raison de ce blocage alors? Car il y a blocage. Il y a certaines choses où une réponse doit être donnée dans 1 mois, dans 2 mois. C'est pas vrai? Il y a une montagne qui doit être bougée. On ne peut pas attendre 1 année ou 2 ans, c'est impossible. Parce que si le temps est trop long, tout tombe en poussière. Mais il y a blocage. Vous ne pouvez obtenir de résultats à votre foi si vous n'êtes pas dans l'amour et ne pardonnez pas à votre prochain. Voilà ce que j'aimerais vous dire. La foi ne peut opérer sans l'amour. Vous pouvez confesser la parole de Dieu. Donc, cette petite graine de moutarde, aussi petite soit-elle, ne peut opérer sans l'amour. Vous savez, la meilleure graine, si elle n'est pas dans un milieu favorable, ne va pas germer. Savez-vous qu'on a trouvé
des grains de blé dans les tombes des pharaons d'Égypte, âgés de 3000 ans, et qui n'ont jamais germé pour la seule raison que les conditions n'étaient pas favorables. Trop sec, pas d'humidité. On a pris ces grains de blé, on les a mis germer. Avec l'humidité, elles sont sorties de terre. Alléluia. Alléluia. Le grain de moutarde ne va pas germer et ne va pas porter du fruit tant que les conditions ne sont pas remplies. Et quelle est la condition? L'amour. L'amour. L'amour du prochain. L'amour de Dieu. La foi. La foi ne peut rien faire par elle-même. Non, il faut qu'elle soit accompagnée de l'amour. Vous pouvez confesser la parole de Dieu tant que vous voulez, mais sans résultat, vous devez pardonner. Voilà la première chose, pardonner. Pour que la foi agisse, il faut marcher dans l'amour. La foi est sans effet quand il y a refus de pardon. Vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez avoir la petite graine de moutarde, la quantité de foi que Dieu a départie. Vous avez cette quantité de foi parce que vous avez cru. Vous l'avez, mais seulement elle ne peut germer parce que le terrain n'est pas favorable. Vous priez pour que la montagne bouge, elle ne peut bouger. La graine est sèche. La vie est dans la graine, mais le fruit ne peut pas venir. La foi est sans effet quand il y a refus de pardon. Croire, prier, confesser de la bouche n'est qu'une partie de la foi qui obtient. Il y a des gens qui disent, moi je crois, il n'y a pas de problème, je crois dans toute la parole de Dieu. Je crois dans la fidélité de Dieu. Je prie. Je confesse au nom de Jésus. Je confesse, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Je réclame les vérités de ta parole. C'est vrai, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout. Dans ce même passage qui parle de la montagne qui peut être bougée, ce même passage, Jésus dit, écoutez ce qu'il dit au verset 25 de Marc 11. « Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez quelqu'un qui vous a offensé, n'est-ce pas? Pardonnez, afin que votre Père céleste qui est dans les cieux vous pardonne aussi à vous vos fautes. Quelles fautes? Les fautes que vous avez commises vis-à-vis de Dieu et les fautes que vous avez commises vis-à-vis de votre prochain. Ensuite, que dit-il? Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Réciprocité. Tout sera bloqué. La prière sera bloquée, la réponse est bloquée, le résultat est bloqué. Pourquoi? La graine est sèche. Elle ne peut germer. Voilà pourquoi. Remarquez que ce verset 25 commence par une conjonction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et. Ce mot fait jonction avec ce que Jésus a dit. Et avec ce que Jésus va dire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Voilà ce qu'il a dit. Et qu'est-ce que Jésus va dire quand vous priez? Pardonnez. Autrement dit, ça forme un tout. Vous ne pouvez avoir la montagne qui bouge si vous ne pardonnez pas. Si vous retenez dans votre cœur de la rancune contre qui que ce soit à cause du mal qui vous a été fait, on vous a fait du mal, c'est indéniable, on vous a fait du mal. Mais Jésus dit, la montagne ne bougera pas, pardonnez d'abord. Pourquoi dit-il cela? Car si nous ne pardonnons pas, la prière est vaine, les nuits de prière sont vaines. Les supplications sont vaines, les larmes sont vaines. Seigneur, pourquoi je ne sors pas? Je n'ai pas de chance, je n'ai pas de chance. Aide-moi, Seigneur. Il faut... Tout cela est vain. Il ne t'écoute pas. Jésus n'a pas dit, quand vous priez, vous aurez votre exaucement immédiatement. Ça serait formidable, dites donc. Je prie pas, ça vient. Jésus n'a pas voulu cela. Non. Non. Il y a une condition. Les promesses sont conditionnelles. Pourquoi? Eh bien, parce que si je priais et que paf, la réponse viendrait, eh bien, je ne m'inquiéterais pas tellement de ma vie spirituelle. N'importe quand je prie, ça viendrait. Je fais ma propre volonté. Je mens, je vole, je profite illégalement des choses, je suis un profiteur, je suis méchant avec mon frère, je pardonne pas, je garde la rancune, je prie, j'obtiendrai. Mais dites donc, quel genre de chrétien ça serait? Non, Dieu n'a pas voulu de cela, il veut qu'il y ait une autodiscipline. Voilà. Je dois me discipliner. Et si je ne me discipline pas, c'est Dieu qui va me discipliner. Alors là, c'est grave. C'est pourquoi la Bible nous dit, juge-toi toi-même afin de ne pas être jugé. Si je me juge moi-même, Dieu alors ne me jugera pas. Mais si je manque de me juger, c'est lui qui me jugera. Eh, dis donc, alors attention là, il est terrible. Il a la patience. Mais quand sa patience arrive à son terme, qui peut échapper? Quand vous priez, vous devez faire quelque chose. Voilà ce qu'il veut dire. Et qu'est-ce que nous devons faire? Pardonner. Il y a condition. Le manque de pardon a été l'obstacle pour tellement de personnes dans l'exercice de la foi qui obtient, dans l'exercice de la prière efficace. Alors, s'il vous plaît, pardonnez. Le non-pardon sera un obstacle dans la vie de prière. J'aimerais tourner les pages de la Bible avec vous dans Marc au chapitre 18. Là, il y a une histoire qui illustre très bien ce que je vous ai dit. Là, il y a, à partir de verset 23 jusqu'au verset 35, il y a un maître de maison, un homme d'affaires qui a beaucoup de serviteurs à son service et qui un jour décide... Pardon, Matthieu 19, excusez-moi. C'est bien, vous suivez. J'entends des murmures dans la salle. Matthieu 18, verset 23. Là, il y a un homme d'affaires qui a des serviteurs et qui veut faire rendre compte à ses serviteurs de leur gérance. Et il découvre que l'un d'eux a une énorme dette vis-à-vis de lui-même, de son maître. Une énorme dette qui il lui doit 10 000 talents. 10 000 talents, attention, mais 10 000 talents représentent, selon la valeur du temps, 3 millions de journées de travail d'un bon ouvrier. Voilà exactement ce que ça représente, selon la valeur de l'époque. 3 millions de journées de travail. Le maître, quand il a vu ça, il a dit, non, ça c'est impossible, il ne pourra jamais me payer. Allez, vendez tous ses biens, sa femme, ses enfants et lui-même en esclavage, et ça payera une partie de la dette. Mais c'était la loi à cette époque-là, la loi. Mais alors, le serviteur s'est mis à pleurer. Maître, pitié, pitié pour mes petits-enfants, ils ne sont pas responsables. Pitié pour ma femme, pourquoi aller en esclavage, s'il te plaît, maître? Et pitié! Il a pleuré. Et le maître a eu pitié. Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Il lui pardonna. Il lui a dit, bon, ça va, j'efface ta dette, tu n'as plus de dette, c'est terminé. Tu restes à mon service, comme auparavant, mais tu es un homme libre de dette. Oh, le soulagement! Comment aurais-je pu payer, même s'il avait cédé, il aurait fallu toute ma vie. Comment aurais-je pu payer? Mais la Bible nous dit qu'en sortant, il trouva un de ses amis, un de ses compagnons de travail, qui lui doit 100 deniers. 100 deniers. Le denier, c'est de la fraction. C'est la fraction des talents. C'est, disons, un genre de centime, si vous voulez. Toujours est-il que 100 deniers représente le salaire d'un ouvrier pour 3 mois et demi. Même pas et demi. Un peu plus de 3 mois. Alors, quand il a vu son compagnon de travail, il lui a dit, paye-moi ma dette. Ah, mais tu sais que la vie est difficile. Paye-moi ma dette. Et il le saisit à la gorge. Tu payes, oui ou non? Je t'emmène chez le gendarme, chez la police. Tu vas voir, tu vas payer. Et tu sais, je ne sais pas comment te payer, mais patience, je te payerai. Je le connais. Tu me dis patience, tu ne payeras jamais. Il l'a fait arrêter et mis en prison. Ah, ses amis qui étaient là ont été vivement touchés. Vivement touchés. Ils furent profondément attristés, nous dit la Bible, et ils allèrent raconter tout cela au maître qui lui avait pardonné son énorme dette. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et Jésus d'ajouter, écoutez bien, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ah. Remarquez que le maître a appelé son serviteur méchant. Voilà le qualificatif qu'il donne à ceux qui ne veulent pas pardonner. Méchant. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas pardonner. Donc, ne pas pardonner, c'est être méchant. Nous ne parlons pas de ce qui est plus méchant ou moins méchant, non. Mais, si c'est méchant, nous ne voulons rien avoir à faire avec ça, n'est-ce pas? Compassion et pardon vont ensemble. Compassion et pardon vont ensemble. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Comme j'ai eu pitié de toi. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Combien d'années cela faisait de prison, de travail forcé? Combien d'années? Peut-être toute sa vie jusqu'à sa mort. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, dit Jésus, si chacun de vous, vous ne pardonnez pas à son frère de tout son cœur. Autrement dit, je vous ai pardonné vos fautes. Et quelles étaient vos fautes? Elles étaient énormes. Rébellion, mensonge, fausseté, vol, concubinage, duplicité, immoralité, et j'en passe, meurtre. Quelle était votre dette? Dette morale, dette spirituelle. Que de dettes énormes! Mais voilà, un jour, vous êtes tombé sur les genoux et vous avez pleuré, « Seigneur, pardonne, pardonne mon péché, pardonne ma dette, pardonne mes actes mauvais, pardonne ma rébellion. Viens, oh Dieu, sauve-moi, je ne peux me sauver moi-même, pitié !» Il a dit, « J'ai envoyé Jésus pour toi, tu ne pouvais pas payer, aucun homme ne pouvait payer, aucun, mais Jésus est venu payer pour toi, crois en Jésus. Oui, Seigneur, je crois en lui. » Et oh, il était content. Il vous a lavé, purifié. Tu es libre. J'ai oublié tes péchés. J'ai oublié tes iniquités. Mais maintenant, votre frère, votre parent, votre neveu, votre cousin, votre patron, votre compagnon de travail, quelqu'un dans la famille, ne vous a pas fait de bien. Au contraire. Il était très mauvais, même, il est allé jusqu'à tuer dans votre famille, à empoisonner, à tuer moralement par la langue, à vous voler, à prendre vos biens, à abuser de vous, et quoi encore? Et vous refusez de le voir, vous refusez d'aller le visiter, vous refusez de lui donner la main, vous lui tournez le dos, la colère, la rancune est là. Il me payera celui-là, il me payera. En tout cas, j'oublie pas. Et je vais l'amener au tribunal et nous verrons. Et nous allons nous expliquer. Ah, dit Jésus. Tu veux savoir ce que tu es? Méchant! C'est pas moi qui dis cela. C'est la Bible. Méchant! Moi, je t'ai beaucoup pardonné. Beaucoup. Tu n'es pas capable de pardonner à celui-là? Ne sais-tu pas que c'est une âme éternelle comme toi? Méchant, parce que vous refusez de pardonner. Pardonnons de tout notre cœur. Si vous êtes méchant, Dieu va-t-il répondre à votre prière? Voilà la question. Dieu va-t-il répondre à votre prière? Le refus du pardon empêche l'exaucement. Car c'est le refus d'aimer son prochain, d'aimer même son ennemi. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Vous refusez d'aimer votre ennemi, c'est de la rébellion. Là, nous avons le principal obstacle à la foi et à la prière qui obtient. Quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. C'est dans Marc 11, 25. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Quelle que soit la chose, une chose grande ou une chose petite. Dans le livre des Cantiques, au chapitre 2, au verset 15, il est dit... prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent la vigne. Quelle sagesse dans cette parole. Très souvent, ce ne sont pas les grosses choses, les grosses erreurs, les grosses fautes, les gros péchés qui nous encombrent la vie à nous, chrétiens. Notre conscience est assez sensibilisée pour avoir rejeté le mensonge, la duplicité, les dérèglements sexuels et autres, et les vols. Mais les petits renards qui rongent la vigne, ces petits renards, vous savez, ils mangent les fleurs quand elles sortent. Ils mangent les fruits qui sortent à peine, si bien que la vigne devient stérile. Vous savez, ces petites choses que nous regardons comme étant peu de choses dans notre vie spirituelle, beaucoup de chrétiens, dans leur marche avec Dieu, ont ces petites choses, ces petits péchés, comme nous disons, ces petites mauvaises habitudes, comme nous disons, et que jamais, jamais nous cherchons à corriger et à mettre en ordre. Et ces petites choses détruisent la foi, mangent la fleur, détruisent le fruit, et nos vies sont stériles. Frères, sœurs, en conclusion, j'aimerais vous dire, soyons rapides, rapides pour nous repentir pendant cette nouvelle année qui est devant nous. Soyons rapides à croire, soyons rapides à pardonner. Cette nouvelle année peut être différente, combien meilleure si nous savons croire, si nous savons nous repentir, si nous savons pardonner, que ce soit votre mot d'ordre pour cette année. Rapide à nous repentir, rapide à croire et rapide à pardonner. La repentance et le pardon marchent la main dans la main. Et tout cela est le fruit de l'amour de Dieu qui était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu bénit les gens qui se repentent. Dieu bénit les gens qui pardonnent. Dieu bénit les gens qui croient. Et ces gens-là ont les montagnes qui se déplacent, verront les arbres se déraciner. Pour eux, il y a alors la joie, il y a le bonheur, et il y a la réponse à la prière de la foi. En eux, il y a une foi vivante, une foi dynamique qui obtient. Dieu les écoute, car ils remplissent les conditions. Ceux qui sont lents à se repentir, lents à pardonner, ne pourront obtenir de Dieu ce qu'il a de mieux pour eux, parce que Dieu sera aussi lent pour leur répondre. Leur manque de pardon les empêche de croire, Dieu. Tu es en conflit avec ton prochain. C'est vrai, il te dénigre. C'est vrai, il dit du mal. C'est vrai, par jalousie, il veut te démolir. Mais pourquoi cette animosité? Parle-lui avec amour et dis-lui, je te pardonne. Tu vas prier après cela et la montagne bougera. L'amour et le pardon vont ensemble. L'amour pardonne. Toutes les bénédictions de Dieu sont pour vous à travers Jésus-Christ. Mais ces bénédictions ne pourront vous être données sans remplir les conditions. Votre foi est bloquée par le manque de pardon, qui est un manque d'amour du prochain. Vous avez les dons spirituels, vous êtes considéré comme un champion aux yeux des autres. Mais Dieu, qu'en dit-il? Soyez rapide à pardonner, soyez rapide à vous repentir, soyez rapide, rapide à croire Dieu. Baissons la tête, s'il vous plaît. Alors vous verrez le résultat. Le résultat sera l'exaucement à la prière. Le résultat sera des bénédictions, le résultat sera des victoires, le vrai résultat sera des exaucements, le vrai résultat sera une joie que le monde ne peut donner. Seigneur Jésus, donne-nous de commencer une nouvelle année différemment que toutes les autres. Donne-nous de faire la rétrospective de notre vie, Seigneur. Oui, nous pouvons influencer notre futur. Nous pouvons influencer ces jours qui sont devant nous. Nous pouvons changer la situation, Seigneur, de notre propre vie. Les montagnes bougeront. Les sycomores seront arrachés. Seigneur, Seigneur, bien souvent le temps de la montagne qui se déplace, le moment de la montagne qui se déplace dépend de nous, dépend de toi. Dépend de moi. Encore une fois, nous l'avons déjà dit dimanche dernier, mais j'aimerais vous le dire, mes frères. Êtes-vous méchants devant Dieu? Si vous n'avez pas pardonné, vous êtes méchants devant Dieu et il vous résiste. Levez-vous, vous qui êtes méchants, en signe de repentance. Levez-vous. C'est une humiliation, c'est vrai, mais il n'y a pas de bénédiction sans humiliation. Il n'y a pas de bénédiction sans humiliation. Celui qui se reconnaît comme étant tel, Dieu l'aidera. Tu n'as pas pardonné. Tu as gardé dans ton cœur et la montagne est toujours là. Et Dieu te dit, méchant, moi je t'ai pardonné. J'ai oublié ton péché. J'ai oublié tes vols. J'ai oublié tes méchantes paroles. J'ai oublié ton impureté. J'ai envoyé Jésus pour payer ta dette. J'ai tout oublié. Tout est passé. Et tu n'es pas capable de pardonner à ton prochain. Tu es méchant. Tu es méchant. Reconnais-le, 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 et viens à lui, et il viendra à ton secours. Cette parole s'adresse à tout le monde, aux chrétiens chevronnés, aux chrétiens champions peut-être. Ce n'est pas toujours le chrétien champion qui a la meilleure attitude. Et certaines fois, c'est l'orgueil qui l'empêche de vouloir se repentir. De vouloir s'humilier. Oh, piétinez cet orgueil, piétinez-le. C'est pas moi qui vous jugerai au dernier jour. Moi, je serai avec vous dans la même foule et Dieu va me juger comme vous-même. Je vous ai prêché la parole. Où en suis-je moi-même? Est-ce que je fais ce que je vous prêche? Homme, femme, je vous en supplie. Bénis-les, bénis mes frères, mes sœurs. Mon Dieu, que nous tous, nous soyons devant toi un jour. Oui, et que nos péchés ne nous tiennent pas devant toi, Seigneur, tout simplement, ne se tiennent pas devant toi, tout simplement, parce que nous n'avons pas voulu pardonner. Donne-nous le courage de pardonner et d'oublier, Seigneur. Et que cette année soit meilleure que les autres. Il y a tant de montagnes dans nos vies, tant de montagnes autour de nous, infranchissables. Seigneur, Seigneur, tu as départi à chacun une mesure de foi, une petite graine. La quantité d'une petite graine, c'est pas beaucoup. Mais c'est suffisant, car la foi est puissante. Seigneur, cette petite graine, elle est là, mais il lui manque l'environnement nécessaire pour qu'elle puisse sortir de terre. Oh mon Dieu, que cette graine ne soit pas sèche en nous, mais qu'elle prenne vie par l'humilité de l'amour, du pardon, du pardon, du pardon. Reprenez vos places.